Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Mon nom est Luc Desormeaux et encore une fois, pour m'accompagner cette semaine, le grand, l'unique, le journaliste automobile par excellence du Canada, mon ami et collègue, Monsieur Marc Bouchard. Salut Marc!
T'sais, j'aime ça quand t'en mets,
ouais.
Mais il y a quand même peut-être une petite limite, là. On va se garder une petite chaîne.
J'en ai mis épaisse à la tosse.
Ouais, mettons que là, c'était un peu intense ton affaire, là.
Ouais, mais c'est correct.
J'apprécie. Mais si, comment je pourrais dire? J'apprécierais davantage si j'avais l'impression que tu le croyais. Mais en tout cas, ça, c'est une autre affaire.
Mais même si je le crois à moitié,
ouais, c'est ça.
T'es quand même dans le top des journalistes automobiles du Canada. C'est quand même pas si bien.
Écoute, ça c'est discutable. Là,
oh, mais c'est correct. Regarde.
On va laisser ça là pour le moment. Alors bonjour mon cher Luc, comment vas-tu cette semaine?
Ça va très bien, et toi?
Moi ça va plutôt bien. Un peu fatigué, les mains un peu crampées, mais pour le reste ça va.
Ouais, parce que t'es dans les rénovations chez vous toi.
Ouais, on est en train de refaire une salle de bain.
Oui.
Et j'ai découvert un nouveau hobby. Tout à fait bon pour le moral et l'esprit.
Mm-hmm.
Fracasser de la céramique à coups de marteau.
Ouais, j'imagine que ça peut être assez... Assez défoulant et écoute, agréable.
On a fait ça en couple, mon épouse et moi, au cours de la fin de semaine.
Mm-hmm.
Ben, en fait, je dirais en trio parce que mon chien est venu se coucher entre les deux, mais c'est pas grave, là. Il est juste un peu innocent.
Ouais, un peu.
Et vraiment, ça a été, oui, un petit défoulement. La surprise, c'est que, bon, ça demande plus de travaux après à rénover parce qu'on a trouvé des surprises sous le plancher, mais ceci étant dit, c'est quand même fort agréable. Et si vous avez un week-end pas occupé et des talents de bricoleur, faites-moi signe. Je suis toujours preneur.
Ouais, c'est ça. Hein? Des fois, on part sur des projets et on se dit ouais, ça serait moins long si quelqu'un de professionnel venait le faire, mais tu sais aussi, il y a le côté budgétaire à un moment donné. Là, c'est que si tu fais tout faire, ça coûte une petite fortune. Et moi aussi, nous autres aussi, on vient de rénover la salle de lavage justement dans le sous-sol. Puis on a tout fait nous-mêmes parce que bon, j'ai pris de l'expérience à construire un sous-sol là, chez mes beaux-parents l'année passée. Cet été. Fait que je suis capable de finir une salle de bain, ça, c'est pas trop compliqué dans ce cas-là. Là.
Oh, t'es-tu conscient de ce que tu viens de dire?
Là? Non, mais ouais, j'ai pas fait un plancher de céramique, j'ai fait un plancher flottant, c'est moins pire. Ouais.
Oui, non, c'était pas ça. Le mot-clé, c'était « je suis capable de finir une salle de bain ».
Ben, OK, faut quand même pas pousser, là. Hein, plomberie et autres, et installer un bain, c'est autre chose. Là, c'est une salle de lavage, c'est pas vraiment une salle de bain, y a pas de bain.
Mais bon, non, c'est correct. Hey, qu'est-ce que tu dirais si on parlait de char?
On pourrait peut-être commencer par ça, ouais. Donc,
je suis meilleur là-dedans que dans le plomberie.
Ouais, c'est ça, moi aussi. Donc, Marc, on va commencer juste parce que je voulais mentionner, c'est la semaine passée, je pense, ou la semaine d'avant que je parlais qu'on allait inaugurer des bornes de recharge dans ma municipalité. Moi, je demeure à Saint-Zotique. Et puis, c'est ça, c'est fait. Ça a été fait cette semaine, on a inauguré ça. Ben pour de vrai, on a inauguré ça, t'as mon chance, c'est un mot difficile à dire, vendredi dernier. Où j'étais là avec ma Leaf et la e-Golf, dont je vais vous parler un peu plus tard. Donc, on a pris des photos et fait une entrevue. Ça devrait apparaître sur la page Facebook de la municipalité dans les jours qui suivent. Et puis, donc c'est ça, deux bornes de recharge qui sont disponibles à la population et aux visiteurs. Donc, si vous passez dans notre coin avec votre voiture électrique, vous avez besoin d'une petite recharge. C'est des bornes niveau 2, donc c'est des bornes 240 volts, c'est pas des bornes rapides, là, ce qu'on appelle une BRCC, mais c'est une borne qui va remplir votre voiture en entier dans 4 heures à peu près. Mais si vous voulez juste une petite recharge, un petit boost pour vous rendre un peu plus loin, ben vous pouvez arrêter là et c'est gratuit. Donc juste à regarder, là, tapez dans votre Google « Municipalité de Saint-Zotique, Hôtel de Ville », c'est sur la rue principale, là, j'ai pas pris l'adresse avec moi, là, je pense que c'est 1200 quelque chose. Là. Puis,
mais c'est gratuit!
C'est des bornes qui sont gratuites, donc c'est des bornes qui, vous n'avez pas besoin de carte pour les activer, ils sont juste là, vous branchez votre voiture et ça va charger.
C'est une bonne nouvelle.
Ouais. On a ça. On a deux aussi au métro. Si jamais vous êtes dans le coin, puis par hasard, les deux bornes sont prises. Le métro Fordham, qui est aussi dans la municipalité, a lui aussi deux bornes d'installer là. Et puis, l'an prochain, là, je vous le dis tout de suite en primeur, on a en primeur. Ça, vous le savez déjà. Vous le savez peut-être déjà, mais à chaque année, ZTélé fait une espèce de tri des plus belles plages du Québec. Puis on est dans le top 10 des plus belles plages du Québec à Saint-Zotique ici. Donc, l'année prochaine, au printemps, au début d'été, on va inaugurer d'autres bornes à la plage directement. Je ne sais pas si ça va être une borne ou deux bornes. Ils sont en train de décider combien de bornes qu'ils vont mettre là. Mais on va avoir au moins une borne qui va être disponible à la plage aussi pour que les gens puissent se charger si vous venez faire un tour à notre belle plage. Et puis, on est supposé...
Dis-moi que tu vas pas là en speedo.
Non, je ne porte même pas de speedo quand je suis seul dans la maison. Je n'ai pas de speedo dans mon tiroir.
Okay, fait ça, c'est la non,
mais sentez-vous bien à l'aise, il n'y a aucun problème. Souvent, même quand je suis en costume de bain, j'ai un chandail. Il n'y a pas d'horreur à voir. Ben, il y a quand même moins d'horreur à voir là. Donc c'est ça. Donc, on va inaugurer des bornes à la plage aussi. Ça va être au début de l'année prochaine, peut-être début juin. Puis on a l'intention de peut-être faire un petit party, là, faire un lancement, qu'on va inviter des gens à venir avec leur voiture électrique et tout ça. Donc, on vous en reparlera un peu plus quand on va arriver près de là. Mais si vous passez dans notre coin, là, passez Valleyfield en vous en allant en Ontario, ben vous avez la municipalité de Saint-Zotique. Vous pouvez arrêter là et puis venez vous charger si vous avez besoin. Donc,
c'est une très bonne nouvelle parce que, tu vois... On parle de bornes, on parle d'accessibilité, puis tu sais que ça fait longtemps que je bougonne contre ça, puis que je dis qu'on n'en a pas assez, puis que c'est toujours trop long à charger. Bon, tu connais ma position là-dessus.
Bon, oui.
À Saint-Hyacinthe, je vous ai parlé qu'il y aurait à la fin de novembre un salon de la voiture électrique.
Mm-hmm.
Puis qu'en même temps, la municipalité, en fait, les concessionnaires de la région s'étaient associés entre eux pour organiser des formations pour leurs représentants, leurs conseillers, s'assurer que ces gens-là étaient capables de bien répondre. Déjà, les formations ont commencé. C'est Daniel Breton qui les donne.
Mm-hmm.
Donc, tu sais, c'est des gens qui vont quand même être bien formés. Ma grande déception, c'est qu'actuellement, on est en pleine campagne électorale.
Oui.
Et je n'ai vu aucun candidat faire la moindre allusion à ce genre d'installation-là.
Non. Oui.
Et je regarde, bon, évidemment, Saint-Hyacinthe, là où je demeure, c'est une ville de pas tout à fait de 60 000 habitants, mais il y a quand même des petites municipalités environnantes, donc il y a un certain nombre de voitures électriques qui sont en circulation. On n'est pas là du tout. Je te dis, il n'y a personne qui en a parlé. Ça me trouble un peu de voir que on ne puisse pas être... Tu sais, on en a des bornes, là, mais ce sont des bornes qui sont sur des terrains privés, je te dirais. Ah bon, t'en as au Cégep, t'en as chez Saint-Hubert, t'as même une borne rapide, là, une BRCC. T'en as aussi à Hydro-Québec. Mais de façon générale, des bornes municipales, des bornes facilement accessibles, on n'en a pas.
Non, il n'y en a pas beaucoup.
Et pourtant, on est le long de l'autoroute. Pourtant, on est dans un endroit qui est, bon, à peu près à une soixantaine, un peu moins de kilomètres, mettons 65 kilomètres du centre-ville de Montréal.
Mm-hmm.
Donc, on est dans une zone où on serait propice à recevoir des gens pour se charger. Bien sûr, là, on est en pleine construction d'un centre de congrès, d'un nouvel hôtel et de tout ce que tu veux. J'ose espérer qu'on y a prévu l'installation de bornes de cette nature-là, mais on a tout un centre-ville qui est magnifique, qui est à mon avis un des plus beaux centres-villes au Québec. Et on n'a aucune borne dans la zone du centre-ville.
Ouais, ce serait peut-être
le temps. Pourtant, il y a des grands stationnements publics, là, tu sais. Alors, je suis un peu déçu de voir que... Et tu remarqueras que dans beaucoup de municipalités, parce que je me suis amusé à faire le tour, il n'y a pas beaucoup de municipalités où on insiste là-dessus.
Ouais, non. Puis moi, j'avoue, j'ai approché la municipalité il y a peut-être 2 ans. Et puis, tu sais, ça c'est sûr que tu peux pas demander à... Tu sais, tu peux pas dire, bon, ben je le demande aujourd'hui et je m'attends que ça soit fait dans 2 semaines. Il y a un processus, ça prend des autorisations puis des choses comme ça. C'est correct, mais que ça se fasse, c'est quand même intéressant. Puis c'est de voir la volonté aussi. Je me suis jamais fait dire, ah oh non, ça nous intéresse pas. Ça a toujours été, dans mon cas, ah, c'est intéressant, on va regarder les coûts et tout ça. Et comme tu le sais, on avait signé un contrat avec une entité qui n'a pas été capable de livrer. Puis, je veux dire, la municipalité de Saint-Zotique a décidé, ben, garde, si
on y va pareil,
puis peu importe, on ne se laissera pas arrêter parce que la compagnie avec qui on voulait faire affaire a décidé que juste de ne pas répondre, puis juste d'étirer à pu finir le temps où ça serait fait. Donc, ils ont décidé d'y aller, ils ont décidé de mettre des bornes gratuite, qui leur rapportera rien. Avec l'autre contrat, ben, on avait des revenus publicitaires parce que c'est comme ça qu'ils faisaient son argent. Là, ils ont juste décidé, regarde, on achète des bornes, on les installe, puis de toute façon, au prix que ça coûte une recharge au commerçant ou à la municipalité, quand t'es branché dessus, c'est des pinottes. Ça coûte rien, là. Donc, ils sont allés quand même, puis ils ont installé, puis c'est disponible. Fait que moi, je le lève mon chapeau. Je trouve que c'est vraiment une belle initiative. Oui, tu sais, ils arrêtent pas de dire, ah, mais tu sais, c'est grâce à vous si le projet a été de l'avant. Oui, peut-être, mais moi, j'ai juste donné une idée, puis c'est quand même eux autres qui ont pris, tu sais, le bâton, puis qui ont couru avec. Là. C'est eux autres qui ont décidé de le faire. Puis tu sais, nous autres, on est une petite municipalité, on n'est pas 8000 dans la municipalité, là. C'est pas gros, là. Puis on est rendu avec 4 bornes de recharge, puis on va en avoir d'autres l'année prochaine, tu sais. Fait que peut-être les autres municipalités, ben, tu sais, prenez cet exemple-là pour vous dire, ben, si une municipalité comme Saint-Zotique est capable de le faire, ben, peut-être que vous autres aussi, vous êtes capable de le faire. Puis même le DG de la ville, M. Mercier, que je salue, a eu des appels de d'autres municipalités en disant, ben, comment vous avez fait, tu sais, ça a été quoi votre plan, puis pourquoi vous y êtes allé, des choses comme ça. Il reçoit des questions d'autres municipalités. Donc, tu sais, moi, je trouve que c'est une très, très belle initiative qu'ils ont pris. Puis je les salue. Fait que c'est ça. Je peux vraiment rien dire d'autre de bon.
Non, je suis très, très heureux.
Ouais.
Sauf que là, si tu permets, on va lâcher un peu les chars électriques.
Oui.
C'est le fun, mais on va parler d'autres choses.
OK.
Parce que je pense que... en fait, on va continuer de parler de ça, mais dans un autre contexte, je te dirais. Est-ce que tu as suivi l'actualité un petit peu? Est-ce que tu as vu ce qui commence à se passer un peu en Europe?
Pas vraiment. J'ai été en congé. J'ai pas vraiment regardé grand-chose dernièrement.
Alors, les municipalités et les pays ont commencé à dire qu'il y aurait bientôt des interdictions complètes de voitures à essence.
Oui, oui.
En fait, le point, c'est que je regarde entre autres le Danemark et les Pays-Bas. On nous annonce qu'à partir de 2030, tu n'auras tout simplement plus le droit de rouler dans ces pays-là au volant de voitures à essence.
Ouais, c'est loin quand même, 2030, mais c'est...
Ben, c'est loin, pas tant, en fait.
Non, c'est presque demain matin pareil. Là.
C'est assez impressionnant, je trouve, moi, comme décision. Est-ce que je suis d'accord? Ben, moi, je pense que non. Je pense qu'on ne sera pas rendu là, de toute façon, au niveau technologique. Mais c'est quand même impressionnant de voir où on en est rendu et qu'est-ce qui se passe. Alors, mon cher, je tiens à te dire que si on veut avancer, c'est le fun qu'on ait des bornes, c'est le fun qu'on ait toutes sortes de choses, mais il va falloir avancer définitivement plus rapidement et prendre des décisions vraiment plus radicales si on veut être en mesure d'accoter ce que nos amis font en Europe.
Ouais, mais il y a beaucoup de comparaisons avec ces pays-là. Il y a des incitatifs un peu plus généreux. Puis,
non, pas tant, en fait.
Ben, il y a des places, tu as du stationnement gratuit en plein centre-ville, c'est une voiture électrique, puis tu la branches pour la charger, tu sais.
Ouais, ça, c'est en Norvège, entre t'sais, autres. Là.
Fait qu'il y a des mais choses ça, quand ça, même ça, intéressantes.
Ça, je sais que je ne me ferai pas d'amis, là, mais c'est tellement le pays de l'hypocrisie absolue. Là.
Okay.
Moi, ça me dérange tellement. Là. Écoute, la Norvège, là, ils se vantent d'être les champions du monde de la voiture électrique, d'offrir toutes sortes de services, toutes sortes d'incitatifs, toutes sortes de... C'est vrai. Sais-tu d'où proviennent leurs revenus?
De quoi?
À 50% de la vente de pétrole à d'autres pays.
Bon, c'est ça. Fait qu'on est propre chez nous, puis on sait les autres.
C'est ça, exactement. Ça, c'est le concept de « on fait pas la guerre, on signe des traités de paix, mais on vous vend des armes pour la faire, par exemple.
Ben, » c'est un peu comme mon chat qui pitche la litière qui pitche la litière en dehors de sa litière, justement, puis qu'il faut que je la ramasse sur le plancher.
Écoute, c'est un peu le même principe. La Norvège, c'est le troisième pays exportateur de pétrole au monde.
OK.
Puis ces gens-là viennent nous faire la leçon de dire « Regardez, nous, on a 50 000 ou 100 000 ou 200 000 voitures électriques en circulation. Ouais, » c'est parce que c'est un peu les autres pays qui payent pour ça, tu sais.
Ouais.
En tout cas,
d'un autre côté, voilà. D'un autre côté, si tu consommes moins de ton pétrole, il t'en reste plus pour en vendre.
Ouais, effectivement.
Qui n'est pas une méchante manière de faire de la business.
Ouais. Non, c'est bon pour la business. Est-ce que c'est bon pour le... comment je pourrais dire la philosophie, c'est un autre
peut-être affaire. Un peu moins. C'est beau. Donc, Marc, on va terminer là-dessus pour notre premier bloc, puis on va revenir tout de suite après la pause avec nos essais de la semaine.
Oui.
Alors, nous sommes de retour, et Marc, c'est l'heure de nos essais de la semaine. Toi, tu as essayé quelque chose, qui est quand même assez récent. C'est la mode maintenant de changer les gros moteurs pour des moteurs un peu plus petits. Donc, Chevrolet a fait la même chose que Ford a fait, je pense, un an avant avec sa Mustang. Et ont mis un 4 cylindres dans la Camaro. Et c'est ce que tu as entre les mains présentement.
Ouais, en fait, c'est ce que j'ai essayé la semaine dernière.
OK.
Sauf que je sais que les amateurs de Camaro se sont mis à friser tout un coup quand ils t'ont entendu parler de ça. Comment ose-t-on mettre dans une Camaro un moteur 4 cylindres? C'est épouvantable, c'est sacrilège. Qu'est-ce qu'on a fait?
Ouais. Mais d'un autre côté aussi, les vrais puristes, autant de Mustang que de Camaro que de Challenger, vous diraient que même un V6, c'était déjà un sacrilège. Fait qu'un 4 cylindres, c'est encore pire.
C'est épouvantable.
Mais écoute, là, c'est ça.
C'est effrayant, un 4 cylindres. Et pourtant, honnêtement, j'ai été très, très, très impressionné de cette voiture. Faut que je te dise que moi, la nouvelle Camaro, et quand je dis la nouvelle, là, c'est en référence à l'ancienne génération là, des années 60-70. Quand on a ramené la Camaro il y a quelques années, j'étais pas le plus grand fan. Moi, j'aime pas ça, les films Transformers, puis un char qui ressemble à des Transformers, ça me faisait moins triper.
Okay?
C'est aussi clair que ça, c'est très simple comme vision. J'aimais pas cette voiture-là. Je trouvais qu'elle avait un look qui était artificiel. Je trouvais que sa qualité de finition n'était pas à la hauteur. Je trouvais qu'elle avait des éléments à l'intérieur, entre autres les espèces de cadrans en bas de la console centrale qui étaient comme faits en plastique avec des petites vitres qui craquaient tout le temps.
Ouais.
Ça, j'aimais pas ça.
Non.
Okay? Je suis
bon.
Très honnête, j'aimais pas ça.
Ouais.
Et je trouvais que la voiture se conduisait mal, elle était trop lourde et tout.
Okay.
J'ai passé une semaine, ben je l'ai réessayé depuis, là, tranquillement je me faisais à l'idée, et j'ai réessayé justement cette voiture-là, 4 cylindres, 2 litres, 275 chevaux, quand même, c'est pas rien, et j'ai beaucoup aimé.
Okay.
J'ai aimé la Camaro parce qu'on a revisité l'intérieur, on a amélioré des choses au fil des ans, on a réussi, entre autres, je trouve très ingénieuses les buses de ventilation, qui sont des grosses buses, là, qui sont bien installées dans le bas de la console centrale, et que tu dois. C'est la buse elle-même que tu dois tourner pour régler ta température.
Oui.
Et ça, je trouve ça génial parce que c'est facile. On le voit ailleurs, mais je trouve que dans la Camaro, c'est particulièrement bien réussi à cause de la taille des buses. C'est facile. Tu ne cherches pas les petits mosus de boutons. Tu ne passes pas ton temps à essayer de régler ça. Tu tournes d'une coche, ça change d'un demi-degré, c'est parfait. Alors, j'ai beaucoup aimé cette chose-là qui a pris la place, justement, des anciens cadrans qui étaient un peu trop gadget à mon goût.
Bon, c'était inutile aussi, là. C'était juste pour, c'était pour le look, on s'entend.
Exactement, là. Alors, évidemment, ça, bon, ça a pris cette place-là. J'ai beaucoup aimé aussi les sièges. Évidemment, dans la version 2 litres, c'est la version LT, là, ce qui n'est pas la version de base, mais qui est la version la plus... pas la plus équipée, mais pas la moins non plus.
OK.
T'as quand même, tu sais, des éléments, t'as beaucoup d'accessoires. Je déteste toujours autant le principe de GM qui a décidé d'éliminer le système de navigation pour le remplacer par OnStar.
Ouais, c'est un peu inutile ça aussi. Moi, appeler quelqu'un pour lui demander mon chemin, là, rendu là, tu te sers de Android Auto ou d'Apple CarPlay.
Exactement. Puis bon, si encore une fois, le problème, c'est que maintenant, il faut que tu te branches pour avoir accès à ça.
Ouais.
Alors que dans certains modèles, entre autres chez Volkswagen, ça se fait par Bluetooth. Dans le cas de la Chevrolet, il fallait brancher. Tu n'as pas ton fil, tu ne peux pas donc avoir accès à Apple CarPlay ou à Android Auto. Bref, ça m'a dérangé un peu. Comme ça m'a dérangé la position de conduite. Tu sais, je suis pas très grand. Le problème, c'est que la ceinture de caisse de Camaro est très élevée, on le sait. Ça n'a pas changé. Donc, tu as l'impression d'être assis un peu au fond d'un bain.
Oui, la visibilité n'est pas la meilleure.
La visibilité n'est pas très bonne. C'est vraiment pas le fun, en fait, de ce point de vue-là. Essayer de faire une manœuvre vers l'arrière, ça demande un peu de doigté parce que tu ne vois pas grand-chose trois quarts arrière. Fait que c'est vraiment pas génial. Autre détail, va essayer de t'asseoir sur les sièges arrière.
Oui, c'est de l'acrobatie un petit peu.
C'est ça. J'ai coulé mes cours de contorsion, fait que j'ai décidé de ne pas aller m'asseoir en arrière.
Okay.
Et enfin, un autre élément qui m'a dérangé un peu, c'est que la Camaro propose un énorme coffre. Tu sais, c'est grand, c'est profond, mais l'embouchure pour y avoir accès est toute petite.
Ouais, c'est ça.
Fait que tu peux pas vraiment profiter de cet espace-là autant que tu devrais. Oui, tu peux, tu sais, empiler des tonnes et des tonnes de sacs d'épicerie, mais tu pourras pas profiter de tout cet espace-là comme tu aurais pu le faire dans d'autres circonstances.
Ouais, parce que l'embouchure, tu peux pas mettre une grosse boîte même si tu as de la place dans le coffre parce que l'embouchure permet pas d'entrer cette dite boîte.
Exactement.
Ouais.
Alors évidemment, ça c'est un problème. Bon, ça, là je viens de te parler des problèmes. Le reste, honnêtement, c'est des affaires que j'ai adorées. J'ai aimé la solidité de la voiture. J'ai aimé la façon dont elle se comportait, autant en ligne droite qu'en virage. On a vraiment rendu les suspensions beaucoup plus rigides qu'elles ne l'étaient. Et ça a été extrêmement agréable comme découverte parce que les premières générations, pas les premières générations, mais les premières versions de la nouvelle mouture étaient un peu moins spectaculaires de ce côté-là.
Ouais.
Évidemment, le moteur 2 litres, parce qu'il faut en parler, était jumelé à une boîte automatique 8 vitesses, qui est correcte, là, qui est tout à fait le fun, qui est rapide, qui répond bien, qui est très agréable. Et honnêtement, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Honnêtement, je dois dire que j'ai complètement révisé ma position sur le Camaro. Moi qui n'étais pas du genre à la recommander, maintenant je t'avoue que j'ai un faible pour cette voiture-là. Je sais que tu m'aimeras pas, mais moi je l'ai préférée à la Mustang.
OK.
Je sais que toi, tu es un fan fini de la Mustang. Mais au point de vue des muscle cars, je trouve que la Mustang a perdu un peu de cette notion-là. Et malgré la présence d'un moteur 2 litres 4 cylindres dans le Camaro, on a retrouvé. C'est un peu cette personnalité-là au fil des dernières années. Alors pour moi, c'est une belle réussite, mon
OK,
cher.
c'est bon. Non, mais c'est ça. Puis si on regarde aussi, je pense que la Camaro avec le moteur 4 cylindres, c'est la Camaro d'entrée de gamme. Il n'y a plus de 6 cylindres du tout chez.
Oh, non, non, non.
Non?
Il y a plus du tout de. Non, non, oublie ça, il n'y a plus de 6
C'est
cylindres, c'est
ça, c'est
fini,
juste
là.
le 4 et le 8 cylindres. Quand Ford a introduit le 4 cylindres, il se retrouvait au-dessus du V6. Fait que le 6 cylindres, c'est le modèle d'entrée de gamme. Après ça, il y avait le
C'est
4
ça.
cylindres EcoBoost. Puis après ça, il y a le 8, il y avait le 8 cylindres. Mais là aussi, Ford a enlevé le 6 cylindres de la Mustang. Donc on se retrouve dans les deux avec un 4 cylindres turbo ou un 8 cylindres. Il y a plus de 6
Oui.
cylindres nulle part dans ces gammes-là, là.
Et
Il y a juste Dodge.
ce qui est intéressant, c'est l'économie, là.
Oui.
Honnêtement, là, c'est vraiment, vraiment un beau travail au niveau de l'économie de carburant. Ça paraît, ça se sent. J'ai trouvé bien ça très agréable, en tout cas.
Mais c'est ça, parce que ça te fait
Toi,
une
tu es
belle
allé dans.
voiture sport, mais qui consomme un peu moins. C'est intéressant.
Ouais, c'est ça. Parlant d'économie, toi, tu es allé dans la version super méga économique, là.
Ouais, je suis allé dans le zéro essence parce que je roulais une voiture électrique, la Volkswagen e-Golf. Bon, la e-Golf est rare. Si vous en voulez une, c'est dommage, il n'y en a plus. Faut mettre votre nom sur une liste d'attente, puis il faut être patient parce
Et
que
espérer parce que ça se peut qu'on la renouvelle pas du tout, puis qu'on amène une nouveauté dans 2 ans, genre.
peut-être c'est possible, mais c'est une excellente voiture. C'est une voiture qui, bon, Volkswagen annonce 201 km d'autonomie. Je n'ai jamais eu une autonomie estimée moindre que 240 km pendant tout le temps que je l'ai eu, quand elle était pleinement chargée. J'ai même eu un 268 km la dernière
Wow.
journée où je suis allé la reconduire. Bon, j'ai pas fait 268 km, mais la voiture estimait que j'aurais pu faire cela. Mais c'est une voiture qui est très, très économe en énergie, une voiture qui va vous donner une performance meilleure que le 201 km. C'est une Golf, ça se conduit comme une Golf. Comme j'ai dit à Marc quand on s'est rencontrés, j'aurais aimé avoir un mode sport, par exemple, sur cette voiture-là. Juste, je le sais que c'est au détriment de l'autonomie puis tout ça, mais c'est une Golf. J'aurais aimé ça, ouais, le petit côté GTI électrique dedans, là, donc mettre, tu sais, un mode sport où on déchaîne vraiment la voiture plutôt que d'essayer de se retenir un peu pour garder l'autonomie. Il y a un mode régulier, il y a deux modes d'économie d'énergie. Un où c'est probablement le mode que vous allez choisir, là, qui est éco, puis il y a un éco plus où vraiment là on tue la bête, là, c'est comme vous accélérez. J'étais à 97 km sur l'autoroute à un moment donné en mode éco plus, puis j'écrasais l'accélérateur, puis ça s'en allait nulle part, là, ça restait collé à 97 km. Fait que je me suis dit, OK, ça doit être sa vitesse maximale dans ce mode-là. Je l'ai remis en mode régulier, puis après ça, j'ai été capable d'accélérer un peu plus, là, parce que dans le trafic à 97 km, des fois, tu peux te faire zigzaguer un peu alentour. J'ai décidé qu'il fallait que je roule un petit peu plus vite que ça. Mais pour le
Mais
reste, ouais.
Éco Plus, t'as pas aussi le système de ventilation qui s'arrête.
Ouais, c'est ça. Ça met vraiment tout en mode, tu sais, qui presque éteint, là, pour te donner la meilleure autonomie. Mais tu sais, j'ai pas vu de gros gains. Tu gagnes comme peut-être 5 à 10 km, là, en changeant d'un mode à l'autre. De régulier au mode éco, tu gagnes peut-être un 5 km, puis tu vas peut-être gagner un autre 5 km, un autre 7 km en mode éco plus. Mais c'est pas, c'est pas si flagrant que ça, là. Ça vaut pas nécessairement la peine d'enlever tout agrément de conduite pour gagner peut-être un 10 km, à moins que vraiment vous voulez tirer la sauce, là, puis vous rendre plus loin, là. Mais à part de ça, je veux dire, c'est pas nécessairement nécessaire. Extérieur, c'est une Golf. Il y a vraiment rien à dire, là. C'est joli. Les lignes sont magnifiques. C'est une belle auto. C'est une hatchback, donc une voiture à rayon.
Et le vert est magnifique. Et
le vert est correct. Avec le beige à l'intérieur, c'est bon. Mais parlant de couleur, Marc, je sais pas si tu as été sur le site de Volkswagen. Tu as une tonne de couleurs disponibles en autant que vous êtes prêt à payer 3 000 $ de plus. C'est 2 995 $ pour choisir des couleurs qui sont pas les couleurs régulières. Mais vous pouvez avoir vraiment... Il y a deux sortes de jaunes. Il y a trois rouges, quatre rouges différents, il y a deux, trois verts, il y a des bleus, mais si vous choisissez une de ces couleurs-là, qui n'est pas une couleur régulière, c'est 2 995 $ de plus pour la faire peinturer de cette couleur-là. Sauf si vous voulez une Golf, encore là, il faut être capable de la trouver, électrique, puis pas avoir la même couleur que votre voisin, choisissez une de ces couleurs-là, puis c'est sûr que vous allez sortir du lot, personne ne va nécessairement avoir la même couleur que vous. Tu sais, il y a trois couleurs d'orange, il y a des mauves, il y a deux, trois couleurs de mauve différentes, je veux dire, il y a beaucoup de couleurs. C'est une voiture qui est pas si chère que ça, ça commence à 35 995 $. Il n'y a pas nécessairement une tonne d'options, donc c'est quand même bien. Puis là, vous pouvez rajouter les rabais gouvernementaux là-dessus, parce que c'est le rabais plein de 8 000 $ au Québec, 14 000 $ en Ontario pour cette voiture-là, parce que c'est une voiture 100% électrique. Donc, c'est ça. L'extérieur, c'est beau. L'intérieur,
L'intérieur, c'est Volkswagen.
C'est correct. Pas de volant chauffant, ce qui est un peu un sacrilège pour une voiture électrique. Puis en plus d'avoir pas de volant chauffant, on vous met un système de divertissement qui n'a aucun bouton, donc il faut absolument appuyer sur l'écran pour faire des changements. Qui dit pas de volant chauffant dit « je vais conduire l'hiver avec des gants », mais il faut que vous enleviez vos gants pour faire vos changements sur votre système de divertissement. C'est un peu plate, là. Mais pour le reste, je veux dire, c'est quand même joli. On a les sièges chauffants, mais ce qui manque vraiment, une voiture électrique, pas de volant chauffant, c'est un peu comme un non-sens, là. Ça devrait venir avec, là. Mais bon, c'est pas dedans. Mais ce qui est intéressant, on a de la place pour les passagers avant, on a beaucoup de place pour les passagers arrière, on a quand même un grand coffre parce qu'on a zéro perte d'espace à cause des batteries comparativement à une GTI ou une Golf R ou les Golf régulières, là, les petites TSI, des choses comme ça qu'on voit sur la route à Anton. Il n'y a pas de perte d'espace. Puis c'est dynamique, ça se conduit pareil comme une Golf. On a un moteur de 100 kW qui donne 134 chevaux, donc ça se déplace. Puis c'est vraiment une voiture qui est très bien. Puis le look est joli parce qu'on a des petites lignes bleues à l'intérieur pour montrer que c'est une voiture électrique. Dans les intérieurs de porte, quand on rouvre la porte, le pas de la porte, il y a une ligne bleue aussi dedans. Dans la calandre en avant, il y a une ligne bleue. C'est des lumières, il y a des lumières au DEL comme feu anti-brouillard. Je veux dire, c'est une voiture qui est jolie, là. C'est vraiment joli. Puis vous avez un port de recharge régulier pour charger sur le 110 ou sur le 240 volts. Et puis, il y a un bloc en bas qu'on enlève. Puis c'est une prise Chademo, pas une prise Chademo, c'est une prise SAE combo. Si vous voulez faire de la recharge rapide, là, à 400 volts, ou sur une BRCC, c'est une borne SAE combo que la Golf a. Donc, vous allez pouvoir faire la recharge rapide aussi avec cette voiture-là. Donc,
si on n'a pas la recharge rapide, on parle de combien de temps?
Je l'ai jamais vidé. Je pense, tu parles de complètement vide, là.
Ouais.
Je sais pas, j'ai pas vu les chiffres de Volkswagen. Je suis en train d'essayer de regarder vite, là. Ils ont pas l'air actifs. Non. Je la vois pas sur la... Je vois. OK, je recharge. Si je regarde vite, ils disent comment. 4 à 5 heures sur une prise niveau 2, donc sur une prise de 240 volts. On parle de 26 à 29 heures sur une niveau 1, donc sur une recharge normale de maison. Puis niveau 3, 80% entre 30 et 45 minutes qu'on parle.
Ben, écoute, c'est
ce qui est raisonnable. C'est comme partout à peu près, là. Donc c'est ça. C'est une belle voiture. C'est juste dommage que ça soit dur à trouver. Mais bon, on va voir où ça va aller si Volkswagen va décider de la ramener dans les prochaines années. Donc ça, Marc, on va faire une petite pause et puis on va revenir ensuite. Tu vas nous parler du salon de Tokyo.
Oui, mon cher.
Alors, nous sommes de retour et Marc, tu voulais nous parler un petit peu de ce qu'on peut s'attendre au salon de Tokyo qui s'en vient dans mon Dieu, la semaine prochaine. Et puis aussi, tu voulais nous parler un peu de ton expérience parce que toi, mon espèce de mot t'as dit chanceux, t'es allé à Tokyo quelques fois. C'est comment ce salon-là? Comme, tu sais, on le pense énorme et tout ça, mais est-ce que c'est si gros que ça? Puis c'est quoi l'expérience Tokyo?
En fait, c'est pas si gros que ça et c'est particulier. Bon, je précise que cette année, je n'y vais pas pour différentes raisons. Une de ces raisons-là, c'est que c'est en même temps que plein d'autres choses. Alors évidemment, on ne peut pas être partout. D'autre part, c'est pas si gros que ça comme salon. C'est un salon qui est assez particulier parce que tu auras compris que sur place, tout ce qu'on nous montre, en fait, ce sont des manufacturiers japonais.
Oui. Je pense pas que Ford, GM et Chrysler aient beaucoup de choses présentes là-bas, même voire rien pantoute.
Ni de Hyundai, ni de Kia,
c'est
sans
ça.
Doute.
Bon, ouais.
Et les Allemands ne sont pas là non plus. Donc, ce ne sont que des manufacturiers japonais. Donc, c'est un salon qui est assez varié dans sa présentation. C'est-à-dire qu'on y retrouve sur place des camions. Mais quand je te parle de camions, là, je te parle de camions, de gros camions commerciaux. Là.
OK, camions de livraison, les choses comme ça.
Camions de livraison, il y a des autobus qui sont sur place. Il y a beaucoup de composantes mécaniques aussi. Des bras d'amortisseurs, des trucs comme ça, on retrouve ça sur place aussi.
Okay.
Donc, c'est vraiment parce que, on le sait, le tuning est encore extrêmement fort au Japon.
Mm-hmm.
Donc, on arrive avec des éléments comme ceux-là qui sont capables d'aller chercher, d'aller attirer l'attention des gens. Ce qu'il y a de aussi très particulier, c'est la technologie. Pourquoi? Parce que, évidemment, tu t'en doutes, mon Dieu, excusez, je viens de... La technologie là-bas, c'est super important parce que c'est bien entendu là, la capitale mondiale de tous les gadgets que tu peux t'imaginer.
Ouais.
Donc, on y retrouve plein d'affaires assez uniques.
Ouais, parce qu'on se pense à date avec notre technologie ici, mais il y a des choses là-bas qu'on peut même pas concevoir encore.
Oui, mais en même temps, c'est tellement des bébelles.
Oui, ça aussi, c'est sûr.
Et quand je suis allé, c'était il y a une couple d'années, mais parce qu'il faut savoir que le salon de Tokyo est là uniquement à tous les 2 ans.
Hein. Okay.
C'est pas un salon annuel.
OK.
Et quand je suis allé il y a quelques années, on nous avait donné l'occasion d'essayer des véhicules qui étaient complètement fous. Je peux te dire que la première fois que je suis allé, c'était il y a 6 ans ou 8 ans, on avait essayé les espèces de petits, tu sais, comme les espèces de planches à roulettes électriques, comme un Segway, mais pas de bras. Là.
OK, ouais.
Tu sais, bon, on avait essayé ça déjà il y a 6 ou 8 ans. J'ai aussi eu l'occasion d'essayer là-bas des affaires complètement folles, entre autres un Lazy Boy motorisé.
OK. Ça vient-tu avec la télé HD puis la manette puis tout?
Presque, en fait.
Une PS4, tu te promènes sur l'autoroute avec ton Lazy Boy puis tu t'es en train de jouer.
Tu ris, mais c'est vraiment un Lazy Boy. Hein?
Okay.
Et tu t'assois dedans et quand tu es assis en position très carrée, on pouvait avancer d'à peu près 8 km/h.
OK.
Ce qui est quand même correct.
Oui.
Mais quand tu le plaçais en position couchée, il devenait plus aérodynamique. Et tu pouvais atteindre jusqu'à 20-quelques kilomètres heure. Je peux te dire que ça vient vite, un mur de briques à 24 kilomètres heure assis dans un Lazy Boy.
J'imagine surtout que les... pas de coussin gonflable, t'es-tu attaché?
T'as aucun élément de sécurité.
Ouais.
Et on se déplaçait avec... On conduisait tout ça avec une espèce de joystick. Évidemment, il y avait une petite madame qui courait aux côtés de nous autres pour nous aider, nous indiquer quoi faire, là, parce que ça n'avait pas de bon sens, et c'était sur un circuit fermé. Évidemment, on n'allait pas à vitesse maximale non plus, mais ça fait quand même partie des éléments qu'on nous a démontrés là-bas.
Okay.
On nous a aussi démontré, et ça m'a fait bien faire rire, un tabouret motorisé.
Oui, mais ça, c'est à mode, les Américains en font à tonnes, des tabourets motorisés là, sur YouTube, il y en a un puis un
oui.
autre, là.
Mais t'as-tu déjà essayé ça?
Non, j'ai pas l'intention non plus.
Ça fonctionne avec l'équilibre de ton poids.
Mm-hmm.
C'est le pire accident que j'ai eu de ma vie. C'est pour ça que je t'en parle.
OK.
Je sais que la bébelle n'est pas nouvelle. Je me suis planté dans un mur, mon ami, là, mais solidement. Parce que c'est justement dirigé avec ton équilibre, comme un Segway, par exemple.
OK, ouais.
Sauf que t'as aucune retenue, là. T'es assis sur un tabouret comme tu le serais dans un bar, mettons.
OK.
Alors, je me suis penché un peu par l'avant. Le bidule est parti. Je trouvais que j'allais trop vite. J'ai reculé un peu, mais pas suffisamment. Et j'ai failli perdre l'équilibre. J'ai donc voulu retrouver mon équilibre En retrouvant l'équilibre, je me suis penché par en avant.
Okay.
Et je te dirais que mon front a visité de très très près le mur du salon de Tokyo.
OK. Il l'a pas frappé, mais il s'est approché de très proche.
Écoute, j'ai rentré dedans, là.
OK, t'as rentré dedans. OK, c'est bon.
Oh, oui, littéralement, là. C'est, sérieusement, là, d'ailleurs. Et le plus insultant, c'est qu'il n'y a personne qui est venu m'aider à me relever, mais se sont tous garrochés sur le tabouret pour voir s'il fonctionnait encore. En tout cas.
Mais ceci explique cela.
Donc. Effectivement. Va sur le bonhomme.
Oui, oui.
Ceci. Alors, mais ça, je vous dis ça, là, c'était il y a une couple d'années. La tendance cette année, c'est évidemment des véhicules qui vont être autonomes. C'est ça qu'on va présenter, que les gens vont pouvoir tester sur place au Salon de Tokyo.
Ou ne pas tester.
Ou ne pas tester, bien entendu. Il y a eu aussi toutes sortes de démonstrations au fil des ans, là. Les systèmes comment ça s'appelle, le iRoad de Toyota qui avait été présenté là-bas, par exemple, ou des trucs comme ça. Pourquoi ils font tout ça à Tokyo? C'est tout simplement parce qu'en 2020, il y a un événement international qui se déroule à Tokyo. Petite affaire, là, ça s'appelle les Jeux Olympiques.
Oui, j'ai entendu parler vaguement.
Vaguement,
ouais.
C'est ça. Et eux autres ont pris la décision que tous les éléments de mobilité personnelle aux Jeux Olympiques seraient soit autonomes, totalement électriques, ou en tout cas zéro émission.
OK.
Et pourraient déplacer soit des groupes, soit des individus tout seuls. Alors, depuis déjà plusieurs années au Salon de Tokyo, on essaie de nous montrer la technologie qui va nous permettre d'atteindre cet élément-là pour 2020. Donc, cette année, j'ai bien hâte de voir ce sera quoi les nouveautés technologiques dans lesquelles on veut aller pour ça. Mais, évidemment, c'est un salon qui est très drôle à visiter pour ça, sans compter que évidemment il y a... Écoute, en passant, c'est le salon aussi où il y a le plus d'hôtesses.
Moi, ouais, j'imagine. Ouais.
Quand tu vas dans les salons traditionnels, tu sais, avant, il y en avait au Canada, aux États-Unis. Maintenant, il n'y en a plus, là, ou très, très peu. Là.
Ouais.
Il y a quelques hôtesses pour présenter. En Europe, il y en a encore quelques-unes. Mais au Japon, là, ils sont 8. Je me rappelle, à un moment donné, il y avait un pneu installé sur une voiture, un pneu particulier qui avait comme des designs sur la paroi latérale. Puis je voulais prendre des photos. Et il a fallu que je fasse tasser les madames parce qu'elles étaient comme 6 devant la voiture à prendre la pause.
OK, ouais. T'es là pour voir les autos et les pneus.
C'est ça. Alors que moi, ce qui m'intéressait, c'était les pneus. En tout cas, bref, ceci étant dit, évidemment, ça, je vous disais ça parce que vous allez donc voir au cours des prochains jours pas mal de gadgets qui vont sortir du Salon de Tokyo. Et ça en fait partie.
OK.
Mais il y a aussi des voitures, évidemment, qu'on va présenter là-bas. En tout cas,
on espère.
Parmi les voitures qu'il y a à surveiller, il y a entre autres Honda. On se rappelle que Honda à Francfort a présenté le Urban EV. Tu sais, le petit multisegment carré.
Qui ressemblait à une vieille Civic des premières années de Honda au Canada. Là.
Que je trouvais tellement beau.
Ouais.
Mais là, on va nous présenter quelque chose qui va être plus une voiture sport. Ça s'appelle d'ailleurs le Sport EV Concept. On nous dit que ça va être calqué sur la Honda 600, qui est un petit véhicule sport qui est déjà en vente au Japon. Évidemment, purement électrique, un petit coupé, probablement hatchback. Donc, c'est les choses qu'on devra surveiller chez Honda.
Mm-hmm.
Du côté de Lexus, Lexus, bien sûr, va présenter sa LS. Parce que c'est la LS a été présentée ailleurs, mais elle va faire une première apparition en sol japonais. C'est évidemment là qu'on s'en va. Mais il devrait aussi y avoir autre chose, c'est-à-dire le fameux RX, le premier multisegment que Lexus a sorti, il devrait être offert en version 7 passagers maintenant. Donc, ça devrait aussi être intéressant à suivre parce que vraiment, là, c'est un véhicule qui, on sait, au Japon, en Chine, on commence à se tourner davantage vers de plus gros véhicules, et ça en fait partie.
OK.
Dans les autres nouveautés à surveiller, ben, il y a Mitsubishi. Mitsubishi qui promet deux concepts. Là, il y en a un qui est un vrai concept qui a l'air d'un truc futuriste là, qui s'appelle le EV4 ou quelque chose comme ça. Bon, peut-être un peu moins intéressant, mais l'autre, il ramène le nom Evolution, la fameuse Lancer Evolution qu'on a connue, qui était la voiture de performance de Mitsubishi.
Mm-hmm.
Mais là, elle a disparu, on le sait. Elle va revenir sous forme de véhicule électrique, mais là, on parle d'un SUV électrique.
Ouais, c'est un peu la mauvaise pratique de Mitsubishi là, qui essaie de prendre les noms qui ont été mythiques dans leurs histoires puis ramener ça avec quelque chose de totalement différent, genre Eclipse, qui est un VUS maintenant et non plus une petite voiture sport.
Attends, c'est... ça s'appelle l'Eclipse Cross.
Ouais, c'est ça. Mais ça reste un nom Eclipse dedans.
Oui, c'est vrai. Écoute, aux États-Unis, le RVR s'appelle la Outlander Sport. Hein.
Non, oui, c'est ça. Les noms changent. C'est la même chose dans d'autres compagnies aussi, que les noms ne sont pas nécessairement pareils, Canada, États-Unis. Là, comme, c'est ça.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est que nous, on a le Outlander et le RVR. Mm-hmm. Eux autres ont le Outlander Sport et le Outlander.
Oui, c'est ça.
On, Mitsubishi garde, est très friand de ses anciens noms. Et dans le cas de l'Evolution, mais là ça va être la E-Evolution, si tu veux. Donc, un véhicule qui est électrique. Tu t'en doutes, mais qui va être doté de 4 roues motrices. On le sait, c'est probablement un créneau où il y a le moins de véhicules disponibles, le 4 roues motrices. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est une bonne idée, d'autant que Mitsubishi, on le rappelle, arrive en décembre avec son Outlander PHEV 4 roues motrices.
Ouais, je trouve drôle celle-là parce que ça fait juste quoi, 3 ans qu'on l'attend?
Oui, mais là, ils ont annoncé des prix et tout et tout.
Oui, oui, oui.
Alors, j'ai hâte de le voir. En tout cas,
je lève mon chapeau pour finalement avoir une date, un moment de lancement et des prix, là. Mais ça fait quand même 3 ans qu'on se fait dire qu'il arrive l'année prochaine.
Mais
on n'avait jamais eu de prix avant. Au moins, là, on sait à quoi s'attendre.
Exactement.
Ouais.
Chez Nissan, on va nous présenter la Leaf version Nismo. Ça me fait toujours bien rire d'avoir une version sport de la Nissan Leaf.
Ouais, ça va être juste toujours, joli.
Qui est toujours bonne pour 241 km, on le rappelle.
Oui.
Mais on devrait aussi présenter la nouvelle génération de la Z. Ça fait longtemps qu'on attend quelque chose de neuf du côté de la Z. Alors, ça devrait être à Tokyo que ça va être présenté.
Ouais.
Et enfin, Subaru, on en a déjà parlé, trois concepts, notamment probablement... une autre version STI de la BRZ, mais qui va être réservée au Japon seulement. Une autre version du Visiv Performance qui va être là aussi. Et vraisemblablement, la nouvelle WRX, en tout cas ce qu'elle devrait être, parce qu'elle est basée sur la nouvelle Impreza, tu le sais, même si elle est maintenant indépendante. Mm-hmm. Et on devrait donc nous la présenter. La dernière, ben pas le dernier, il en reste deux. Il y a Toyota qui va nous présenter le GRHV Sport Concept, une espèce de mélange entre une Supra qu'on attend toujours et une 86, la fameuse Toyota 86. Toi, Targa, véhicule électrique, on verra donc ce que ça va donner, mais c'est ce que Toyota nous promet. Et enfin, il y a Mazda. Mazda qui, on l'espère, va offrir la nouvelle Mazda 3.
Oui.
C'est ce qu'on nous dit. Va aussi présenter un concept qui va être sportif, électrique et probablement rotatif.
Donc,
qu'on sait que Mazda revient avec le moteur rotatif, donc la RX-9, mais on n'est pas sûr.
Moi, probablement, oui.
Et Mazda va aussi en profiter pour dévoiler, promouvoir davantage son fameux Skyactiv X, là, qui est le nouveau moteur qui démarre par compression, un peu comme le diesel le fait, là.
Ouais.
Donc, une nouvelle technologie. Dernier détail, parce que ce n'est pas un fabricant d'auto, c'est Yamaha qui devrait aussi présenter un nouveau concept automobile. Il l'avait fait la dernière fois et le refont aussi. Donc, beaucoup, beaucoup de nouveautés à surveiller au Salon de l'Auto de Tokyo. Les journées de presse sont la semaine prochaine et après ça, le salon s'ouvre au public. On devrait donc avoir plus de détails à ce moment-là, mon cher.
J'ai hâte de voir aussi une rumeur que Nissan présenterait un VUS construit sur la plateforme de la Leaf, là.
Oui, mais ça fait combien d'années qu'on en parle?
Oui, c'est ça. Mais il y aurait eu une image que Nissan aurait mise sur Internet avec juste une forme. Là, fait que j'ai hâte de voir si ça aussi, ça va arriver. J'ai hâte de voir aussi si Mazda va décider de montrer leur technologie pour voiture électrique parce qu'il y a des rumeurs qui s'en viennent avec une voiture électrique. Je ne sais pas s'ils vont prendre le salon de Tokyo pour présenter
Moi, je pense qu'il est un peu trop tôt. Oui, il y a des rumeurs, mais... c'est pas. Je pense qu'il est trop tôt. Là. Ils vont collaborer, entre autres, avec d'autres compagnies. On n'est pas rendu encore. Là.
Bon, peut-être le prochain salon de Tokyo.
Effectivement.
C'est bon. Donc, Marc, on va faire une pause là-dessus, puis on va revenir avec les nouvelles. Alors, nous sommes de retour. Et Marc, dernier bloc cette semaine, c'est le bloc nouvelles. Qu'as-tu pour nous?
Mon Dieu, j'ai beaucoup de choses pour vous, mon cher.
Bon, hey.
Écoute, je pense que ce qui a retenu beaucoup, beaucoup l'attention cette semaine, soyons sérieux, c'est. Pas Volvo, mais Polestar.
Mm-hmm.
Oui, parce que maintenant, Polestar est une division officielle de Volvo, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années encore. Polestar, on rappelle, c'est la division qui auparavant était une compagnie indépendante qui prenait des véhicules Volvo pour les rendre performants, pour en faire des véhicules de piste.
Ouais, un peu ce que Shelby ou Roush fait avec des Mustang et autres. Là,
exactement.
Ouais.
Mais depuis 2015, Polestar a été racheté par Volvo et complètement intégré. Depuis, entre autres, notamment, là, beaucoup l'intervention de Geely qui a dit « Oui, nous, on veut Polestar.
Mm-hmm. »
Et ils ont présenté cette semaine la Polestar 1.
Okay.
Qu'est-ce que c'est la Polestar 1? Ben, c'est littéralement une compétitrice à la Tesla Model S.
Ah, OK.
C'est littéralement, c'est ça. C'est une grosse voiture, même si on nous dit que c'est la Model 3. Là.
Okay.
Elle est plus grosse que ça. C'est un 2 plus 2 grande touring. C'est assez gros. Ça a presque l'air d'une S90, en fait. C'est ce qui me fait dire que c'est plus une Model S.
Okay.
Mais c'est une hybride branchable. Mais une hybride branchable qui est vraiment, vraiment, vraiment spectaculaire. Imagine une hybride branchable qui a une autonomie électrique de 150 km.
Ben, c'est l'autonomie d'un véhicule électrique courant.
Exactement. Alors, t'imagines, on est vraiment dans un autre monde. On arrive avec une voiture grand luxe qui est magnifique. Si vous avez l'occasion d'aller voir cette voiture-là, allez voir les photos, elle est absolument superbe. L'intérieur, ben, c'est l'intérieur tout à fait Volvo, là, avec tout ce que ça implique de grand écran, de qualité de finition et tout. Bien sûr, on a maximisé l'usage de la technologie pour alléger le véhicule, fibre de carbone notamment, bon, des trucs comme ça. Et, on l'a mentionné, une motorisation électrique bonne pour 150 km, jumelée à un moteur à essence. L'idée, au total, 600 chevaux. C'est ce que la voiture devrait développer. Évidemment, on n'en est pas, on n'a pas fait les tests encore. La voiture devrait être disponible à compter du milieu de 2018. Mais c'est vraiment, vraiment quelque chose d'assez spectaculaire. Donc, Polestar qui fait vraiment une entrée. On le sait, Volvo avait déjà annoncé qu'ils étaient pour électrifier la totalité de leur gamme.
Mm-hmm.
Quand on dit électrifier, c'est pas nécessairement 100% électrique, mais avec une portion électrique. Donc, on en a la preuve cette fois-ci.
Ouais.
Et donc, c'est la Polestar 1. Il y aura une Polestar 2 plus tard. Le Polestar 2, ça devrait être un utilitaire sport qui va utiliser sensiblement la même chose. Et il y aura la Polestar 3 aussi qui va être là. Donc, on est déjà là à trois véhicules que Volvo souhaite mettre de l'avant pour réussir à atteindre ses objectifs en 2019, d'avoir 2019-2020, d'être complètement électrifié, ce qui est quand même pas rien pour une voiture qui, dans ce temps-là, était, écoute, à l'époque, Volvo, c'était loin d'être ça, là.
Ben oui, ouais.
Mais là, maintenant, on est vraiment, c'est vraiment incroyable.
Est-ce qu'on planifie laisser garder ces noms-là? Polestar 1, Polestar, où on va leur trouver un nom, là, c'est juste le nom du concept pour l'instant, c'est Polestar 1.
Moi, j'ai l'impression que c'est juste le nom du concept
ouais,
pour le moment. Il me
semble que c'est un peu plate comme nom. J'aime le nom Polestar, là, mais tu sais, 1. C'est...
Ouais, c'est ça. Non, moi, je pense que ça va. En tout cas, on verra rendu là.
C'est bon.
Dans la série des voitures de luxe un peu plus exclusives, les Porsche Boxster 718 et Cayman 718. Viennent d'arriver avec une nouvelle génération, pas une nouvelle génération, une nouvelle version, la version GTS. C'est plus racé, plus sportif un peu que les modèles de base. Toujours modèle 4 cylindres à plat, 2,5 litres, 365 chevaux quand même,
mm-hmm.
ce qui est 35 de plus que les anciennes GTS. Donc, parce qu'évidemment, dans ce cas-ci, on parle de moteur turbo, là, alors que dans les anciennes GTS, c'est un moteur atmosphérique seulement.
Ouais.
317 livres-pieds de couple, un 0-100 en 4,1 secondes et une PDK, bien sûr, à double embrayage en option. De base, la manuelle s'y rapporte, ce qui m'étonne parce que Porsche a tendance à se débarrasser de ses manuels.
Oui, la plupart des constructeurs se débarrassent tranquillement des transmissions manuelles. Porsche aime beaucoup sa PDK, donc...
Effectivement.
Ouais.
Donc, je te mets au défi de dire le nom sans t'enfarger en allemand.
Oui, non, c'est beau.
Ouais. Alors donc, les 718 GTS Boxer et Cayman vont arriver bientôt. Dans le cas de la Boxer, on parle d'une voiture de 90 600 $. Dans le cas de la Cayman, on parle d'une voiture de 93 000 $. C'est quand même pas exactement à la portée de mon budget de la semaine. Je vais finir ma salle de bain avant. Mais c'est
Ouais.
quand même pas, plutôt raisonnable pour quelqu'un qui voudrait quand même avoir une voiture assez performante, assez légère, assez agréable. Moi, à mon avis, les 718 Cayman et Boxer sont, c'est la gamme la plus intéressante de Porsche parce que c'est la plus abordable, mais en même temps, je trouve qu'elle est très, très bien équilibrée. Alors, j'ai beaucoup aimé ces véhicules-là. Je n'ai pas essayé la GTS encore, évidemment.
Ouais, non, je suis d'accord. De toutes les voitures qu'on avait essayées au Camp 4, là, il y a quelques années, la Cayman avait été ma préférée. Même si on avait essayé des 911 et tout ça, la Cayman avait resté la voiture que j'avais aimé le plus conduire. Fait que
Effectivement.
c'est,
Alors, tu vois,
ouais, agréable.
c'est donc quelque chose d'agréable.
Oui.
Nissan nous avait promis qu'avec sa Leaf arrivait le fameux Pro Pilot Assist, là, le fameux système de motorisation autonome. Bon, ben, on l'a mis sur la nouvelle Leaf, mais la nouvelle Leaf, on le sait, n'arrivera que dans quelques mois. Par contre, on l'a mis sur le nouveau Rogue à partir de 2018, donc dans les versions SL Platine, donc les versions les plus haut de gamme, il sera possible d'avoir accès à ce fameux système qui s'appelle le Pro Pilot Assist, qui est en fait à l'aide d'une caméra, d'un radar, là, un système qui t'aide à rester dans ta voie, puis qui va garder le véhicule au centre de la voie, puis à une distance sécuritaire du véhicule qui précède. Donc, ce qu'on a déjà dans plusieurs véhicules, régulateur de vitesse adaptatif et maintien en voie. Donc, ce n'est pas la grande nouveauté. Mais c'est quand même intéressant si vous aimez les nouvelles technologies sécuritaires. La question, c'est on ne sait pas quelle est la surcharge que ça va amener sur la Nissan. Je n'ai pas comparé les prix. On sait que le Rogue, quand même, il va se vendre à partir de 36 998 $, ce qui n'est pas donné pour un petit véhicule de cette taille-là.
Bon, c'est ça. Fait que là, ça va te prendre la version platine, plus ça va être une option que tu vas rajouter. Ça va
Exactement.
commencer à faire cher un peu, là, mais on verra. Il y a des
Ouais.
gens que ça va intéresser et des gens que ça intéressera pas. C'est disponible sur beaucoup de véhicules en option, puis je suis pas sûr que les gens sont prêts à payer le 2 000 $-3 000 de plus pour avoir ça, cette option-là.
Non, moi non plus.
Bon. C'est
Tout à
surtout
fait.
à la revente. Si tu n'as pas l'intention de garder ton véhicule longtemps, à la revente, tu vas trouver que tu as peut-être dépensé trop pour rien.
C'est effectivement.
C'est bon.
Cette semaine, je suis en train de conduire la Mini Clubman PHEV.
OK, branchable, oui.
Branchable. Donc, on pourra en reparler la semaine prochaine. La raison pour laquelle je te dis ça, c'est que ça s'inscrit en fait dans je dirais, la tendance de Mini actuellement, qui est vraiment dans une année où ça va très bien. Et Mini a tenu la semaine dernière, samedi dernier pour être précis, dans la région montréalaise, une espèce de rassemblement des propriétaires de Mini pour célébrer son 15e anniversaire de retour au Canada.
OK.
On se rappellera évidemment les Mini originales datent de 1959, là,
Oui.
mais même moi, je n'étais pas là dans ce temps-là. Donc, c'est en 2002 que Mini est arrivé chez BMW et on avait organisé un grand rassemblement la semaine passée à Icare. Ça a permis de voir qu'il y avait pas mal de monde qui tripait encore Mini et ça a permis de savoir, entre autres, que les modèles Mini sont là pour rester. On mise énormément sur l'électrique du côté de Mini. Bon, comme je te dis, moi, j'ai la Clubman qui est branchable. On va arriver aussi avec des Mini électriques complètes et même des versions John Cooper Works qui devraient utiliser une partie d'électrification. Je te rappelle que les John Cooper Works, c'est quand même les voitures les plus performantes de la gamme Mini. Donc, ce n'est pas négligeable comme idée parce que chez Mini, on mise vraiment là, sur l'élargissement de la clientèle le plus possible. Alors, mon cher Luc, est-ce que tu as beaucoup de budget?
Non, pas vraiment.
Non, c'est
Non,
dommage.
non.
Moi qui voulais que tu te payes une petite gâterie. Est-ce que tu connais la voiture, la McLaren F1? Et là, je ne parle pas de la voiture de course, là.
Oui.
Je parle vraiment d'une voiture de route, en fait. On avait à l'époque décidé de faire une voiture avec un moteur V12 618 chevaux. L'idée, c'est qu'on voulait avoir la voiture la plus rapide au monde.
Oui. C'est la première voiture de route que McLaren a fait, la F1.
Exactement. 0-100, 3,6 secondes et tout.
Ouais, qui est devenu une icône, qui est devenu une icône du monde automobile un peu. Là. C'est rare et c'est des voitures qui sont très, très primées.
Totalement. Et imagine, il y en a une qui est actuellement à vendre en Angleterre.
Ah.
OK? Elle porte le numéro de série 60 parce que, bon, tu te doutes que ça n'a pas été fait en grande quantité, ce genre de véhicule-là.
Non.
Elle n'affiche que 148 000 au compteur.
Okay.
Pas 148 000 000.
Non, 148 000.
148 000. Littéralement, c'est une voiture neuve.
Ouais, la personne l'a pris, l'a amené chez eux et l'a stationné et elle n'a jamais roulé.
Effectivement.
Ouais.
C'est donc une voiture absolument incroyable. Elle est neuve. On n'a pas trouvé le prix de celle-là parce qu'elle est en vente dans une concession britannique.
OK.
Puis évidemment, ils refusent de donner le prix publiquement. Tu dois te présenter sur place pour l'avoir.
Moi, ouais, j'imagine.
Je vais quand même te dire que la dernière McLaren F1 vendue s'est vendue 15,6 millions de dollars.
Et elle avait sûrement plus que 148 000 au compteur.
Exactement. Alors, okay. Je te suggère fortement d'économiser un peu tes sous.
Ouais, non. J'irais m'acheter plus qu'une voiture sport dans ce cas-là. T'sais, tant qu'avoir 15 millions, tu t'achètes une collection de quelques voitures pour faire changement d'une journée à l'autre. Là.
Et, ah, bon, tu ouais. T'es rendu difficile en plus.
Non, je suis juste rendu raisonnable.
Tu sais, je te l'aurais acheté tout. Puis...
Ouais, mais tu sais, à 15 millions, veux-tu vraiment sortir ça sur les routes du Québec?
En fait, est-ce que j'aurais même le courage de conduire ce véhicule-là?
Sachant qu'elle vaut 15 millions, tu sais. Puis, je sais pas, t'appelles ton assureur, tu dis « Ouais, bonjour, je vais m'acheter une McLaren F1, je vais laver 15 millions, combien ça me coûte d'assurance par mois et qu'est-ce qui se passe si par hasard, j'ai un accident? » Ça doit coûter une fortune à réparer, les pièces doivent être rares et même doivent être probablement être quand t'as un accident puis t'as besoin d'une aile droite, il doit presque falloir qu'il la fasse pour ta voiture, tu sais, qu'il la construise puis qu'il te l'envoie par après, parce qu'il doit même pas avoir de pièces disponibles pour ça, j'imagine. Là. Ça doit être un cauchemar.
Totalement.
Ouais.
Totalement.
Ouais. Ouais. OK.
Fait que non, c'est effectivement. Mais tu sais, je pense à tous ceux qui ont des voitures de collection de cette nature-là, là, tu sais, les Bugatti Veyron, les autrement, ouais. Les Ferrari. Tu sais, on parle beaucoup de Lance Stroll, le pilote automobile.
Mm-hmm.
Son père est propriétaire de la piste Mont-Tremblant et propriétaire aussi d'une immense collection de véhicules.
Ouais.
Et il avait entre autres acheté une des Ferrari les plus chères au monde à l'époque. Et il a des gens qui travaillent pour lui, dont le travail est de rouler ces voitures-là à l'occasion sur la piste pour pas que les voitures restent immobiles puis, tu sais, deviennent inutiles.
Oui, parce que c'est aussi mauvais pour la voiture de ne jamais rouler que de trop rouler. Là. Les pièces vont s'endommager pareil, ça va saisir, le moteur va saisir. C'est pas bon. Là.
Non, vraiment pas. Je sais pas si j'aimerais ça faire ce job-là, par exemple.
Ben, le stress doit être assez élevé, hein?
Écoute, c'est sûr que les gens que je connais qui étaient là sont des pilotes professionnels, là, des ouais. gens qui connaissaient un peu ce qu'ils faisaient. Mais semble, tu sais, tu manques un virage, t'accroches une aile dans un mur, là. Il semble que tu dois filer nerveux. Boss, tu sais, votre petite Ferrari à 12 millions, là, ben, je pense qu'elle a besoin d'un petit peu de peinture. Il semble que non, c'est pas le genre de choses que j'aimerais dire.
Ouais, j'ai une roche dans le pare-brise. Ça vaut combien un pare-brise de cette Ferrari-là, par hasard?
Ouais. Alors, tout ça pour dire, chers amis, que voilà qui va mettre fin à cette émission parce qu'on dit des niaiseries maintenant. Et que si vous en avez envie, vous pouvez toujours nous acheter une de ces voitures de collection. On se contenterait même d'une reproduction en Lego ou à coller si jamais vous n'avez pas les moyens de la vraie.
Ouais, ouais.
Je lance le message comme ça. On m'a toujours dit de lancer mes affaires dans l'univers, ça finirait par arriver. Entre-temps, ben, vous pouvez évidemment me suivre sur mon blog marcbouchard.ca. Venez me voir sur Facebook, n'hésitez pas. Bien sûr, c'est Marc Bouchard. Mon Instagram, c'est Bouchard souligné Marc et mon Twitter, Marc souligné Bouchard. Et bien entendu, nous poser toutes les questions dont vous rêvez à c'est info@saroulradio.com, une adresse à laquelle Luc et moi, on a accès. Quant à toi, mon cher, on fait quoi pour te parler?
Ben, sur Twitter, @Ascalazormo. Sinon, il y a la page Facebook de Saroule Radio qui est à Saroule Radio. Le compte Twitter de Saroule Radio qui est aussi à Saroule Radio. Puis, vous pouvez nous écouter un peu partout, Google Play, aussi sur iTunes et quelques stations de radio qui aussi, des radios internet qui nous diffusent à des heures différentes. Donc, regardez ça, il y a sportradio.ca, il y a Radio H2O et il y a Radio Média Plus qui nous diffuse aussi là, de temps en temps. On est Radio Média Plus, on est là à tous les jours, juste à regarder la grille horaire. Là, il y a des jours, on est même là deux fois. Donc, si vous nous avez manqué, si vous allez là, vous allez être certain de nous trouver et de pouvoir nous écouter. Donc, c'est pas mal ça. Marc, merci encore une fois d'avoir fait cette émission avec moi cette semaine. Je te laisse retourner à ta construction de chambre de bain. Et puis, on espère que tu seras toujours en vie pour être avec nous la semaine prochaine.
Peut-être avec un clou dans la main, mais j'y serai.
Peut-être. Au moins, tu peux toujours continuer à parler. Donc, merci à tous, puis on se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde. We'll be right back.